L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Cette semaine, pendant une vingtaine de minutes, direction Cotonou, au Bénin.
Bonjour Raphaël, bienvenue à Blolab. Je suis très content de t'avoir ici et de te présenter cet espace d'innovation numérique installé en plein cœur de Cotonou et qui travaille justement au quotidien pour faire monter en compétence les jeunes du territoire.
Notre reportrice Raphaël Constant est allée pousser la porte de Blolab, un espace d'innovation et de formation aux outils du numérique. Médard Agbayazon, que vous venez d'entendre, est le fondateur de ce lieu où la jeunesse peut se retrouver, où l'on met en avant l'esprit de créativité et de collaboration pour répondre aux défis du Bénin, où l'on compile, par exemple, des données pour créer de l'information pour le bien commun. L'enjeu ultime, c'est bien sûr de mettre toutes ces innovations au service des communautés et du développement du pays.
RFI.
L'entretien se déroule à Blolab Cotonou, dans le quartier de Zogbowé, derrière le stade de l'Amitié.
Médard, on est en train de monter les deux étages qui vont nous emmener donc dans le Blolab. Et dès l'arrivée, on voit les murs peints aux couleurs du Bénin.
Parce que nous avons justement cette fibre patriotique dans nos veines et nous souhaitons justement montrer au quotidien que dans le pays, il y a des choses aussi qui se passent et qui se font par et pour les jeunes.
On vient de rentrer dans la première pièce du Fab Lab, du Blolab. Il y a des ordinateurs et des machines connectées un peu partout, ça sent plastique brûlé. Mais avant tout, Médard, le Blolab, il a été créé quand et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?
Le Blolab a été créé en 2015. Et alors quand vous prenez le Blolab, vous avez Blo et vous avez Lab. Donc Blo pour dire faire en fond. Le fond, c'est la langue la plus parlée au pays. Et Lab pour dire laboratoire. Donc c'est un espace du faire. Quand vous venez, vous touchez aux machines et vous arrivez vous-même à fabriquer, quelle qu'en soit votre formation de base. Donc aujourd'hui, globalement, c'est un peu ça. Vous avez des machines de fabrication numérique.
On peut faire un tour ?
Alors, donc, faisons le tour. Et là, tu vois une imprimante 3D et qui, justement, arrive à fondre du filament 3D et qui fabrique, en fait, un objet qui a été préalablement modélisé. Donc, aujourd'hui, on a des porteurs de projets, des professionnels, des jeunes en décrochage, etc., qui viennent utiliser ces machines-là pour pouvoir prototyper. Et quand on va plus loin...
On voit le fameux Jerry Can, qui est un peu l'emblème du Fab Lab.
Exactement. Donc le Jerry, effectivement, c'est un ordinateur qui est monté dans un bidon à partir de matériel recyclé. On essaie justement de donner une seconde vie à ces composants-là et d'installer des systèmes open source là-dessus pour pouvoir permettre aux enfants de se former en fait au numérique. En faisant ces Jerry-là, c'est qu'il y a deux problématiques qui sont abordées ou qui sont résolues. C'est celle justement liée au développement ou à la stimulation de la créativité chez les enfants. Et la deuxième problématique qu'on essaie d'aborder, c'est celle liée justement à l'environnement. Donc aujourd'hui, le Fab Lab, c'est les machines qui sont disponibles, mais c'est surtout en fait les projets concrets que nous développons sur notre territoire pour pouvoir l'impacter. L'idée du Fab Lab, c'est effectivement de faire des jeunes citoyens engagés. Et on se définit d'ailleurs comme étant un espace d'innovation numérique au service justement de la résolution des problématiques locales identifiées sur notre territoire.
Mais alors justement, ce laboratoire, il fonctionne en communauté, dans une dynamique de co-construction. Donc l'idée, c'est en fait de réunir des jeunes, des citoyens, de mettre des connaissances en commun pour trouver des solutions aux défis africains d'aujourd'hui, c'est ça ?
Les projets sur lesquels nous travaillons, pour la plupart, c'est des projets en fait collaboratifs. Et donc, vous avez par exemple des agriculteurs qui viennent ici, avec des problématiques concrètes, donc qu'ils rencontrent dans l'exploitation agricole. Et quand ils y viennent, ils ont à côté d'eux des développeurs, des techniciens, avec qui ils arrivent justement à monter des projets et à les construire dans le temps.
Alors, c'est quoi les projets spécifiques au Bénin ?
On a développé, par exemple, ici, en lien avec une collectivité territoriale, donc un quartier, on a développé, par exemple, un projet qu'on a appelé Mapendiri, avec des chercheurs. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, tracer les ordures, mettre en place une base de données cartographique sur le flux que font les ordures dans un quartier. Et derrière, on a pu former les jeunes qui ont construit cette base de données cartographique et les données ont été utilisées pour proposer justement un plan d'aménagement pour le quartier. Et on a formé des jeunes en situation de décrochage à la fabrication de Jerry et ils ont développé un modèle économique autour. Ils sont devenus carrément des acteurs économiques à part entière.
Et justement, quand les jeunes viennent ici, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ?
Alors, on a des professionnels, on a des porteurs de projets, on a des étudiants, on a des décrocheurs. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus cette cible qui nous intéresse, les décrocheurs. Parce qu'on définit l'espace comme étant un espace de deuxième chance. Donc, ce sont des personnes qui errent peut-être à l'université ou qui ont peut-être fini une formation, mais n'ont pas d'emploi, dont la précarité, elle est là, etc. Et quand ils viennent, ils se forment sur les outils et ils arrivent d'ailleurs à partir de là à proposer même des solutions aux entreprises. Aujourd'hui, ils deviennent des acteurs économiques à part entière. Donc, l'espace, c'est d'abord un lieu de mutualisation, en fait, de ressources. On se définit même comme un espace dans lequel, quand tu viens, tu fais tout ce que tu veux, mais pas n'importe comment. Donc, on se définit aussi, si tu veux, comme un commun. C'est-à-dire qu'un espace qui appartient à tout le monde, mais au même moment qu'il n'appartient à personne. Il faut faire les choses de manière à ce que d'autres personnes qui viennent dans l'espace qui puissent justement en profiter, utiliser les machines et co-construire des solutions.
Baby me chante la mélodie et voit que l'amour là du Katanga. Chambou a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Ah. Ba, 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 ba. Tu passes au log 2, 3, 7 dans le grand lobby. Si tu supports, ne passe pas les logs. Et en grosse pécane, on haga même avec le download. Code négé sur le switch avec ballon. On a compris qu'il fallait bon chat comme un titan. Oh là, m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets. Tu passes pas la mi-temps. La petite fille veut que je la ouette pour qu'elle se complète. Je la capte comme un deton. Petit, faut pas que je reste. La famille m'appelle, la douleur est présente.
C'était Quête du chanteur franco-camerounais Yamé, fils d'une mère informaticienne et d'un père musicien. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Raphaël Constant s'entretient avec Médar Agbayazon, fondateur de Blolab, un lieu dédié au numérique à Cotonou.
Alors, le concept de Fab Lab en Afrique, c'est pas nouveau, mais le Blolab, c'est aussi une école numérique inclusive, et ça, c'est différent des autres laboratoires.
Au fil des ans, après 5 ans d'existence, de développement de projets, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment structurer une vraie offre de formation au profit de ces personnes-là. Et c'est là, justement, au niveau du Fab Lab, on a mis en place une école de deuxième chance qui s'appelle l'école 229. Et l'idée, c'est de pouvoir former ces personnes qui viennent de manière très courte, avec une approche très agile, en très peu de temps. Et après, de les accompagner jusqu'à leur insertion professionnelle. Et là, concrètement, on a un impact sur le territoire. Et donc, les Fab Labs en Afrique, parce que parallèlement, moi, je suis le président du réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, voilà un réseau qui fédère une trentaine de Fab Labs, etc. Et donc, les problématiques sont presque les mêmes dans tous les pays. Et donc,
c'est-à-dire ?
C'est que il y a la situation, il n'y a pas d'emploi, il y a la précarité grandissante, il y a plein de maux au niveau de la jeunesse. Donc nous, on se positionne justement comme étant un espace alternatif qui donne ce sourire-là à ces jeunes quand ils viennent. Parce qu'ils ont pu justement trouver un espace dans lequel ils pouvaient se former sans grands moyens. Leur seule limite, justement, c'est leur imagination.
Est-ce qu'il y a un projet phare dont vous voudriez me parler ?
Oui, nous travaillons actuellement sur un projet de mise en place de capteurs de pollution dans la ville de Cotonou et de pouvoir donc produire de la donnée à mettre à la disposition des autorités compétentes, mais de toutes les parties prenantes du projet. Parce que sur ce projet, nous travaillons beaucoup avec les chercheurs parce qu'ils nous permettent justement d'interpréter les résultats de nos données, que derrière des propositions conséquentes soient faites. Nous avons par exemple travaillé aussi sur un projet de mise en place d'un dispositif d'irrigation à distance pour permettre aux agriculteurs de prendre le contrôle donc de la gestion de l'eau sur l'exploitation agricole. Et donc, c'est les capteurs qu'ils arrivent justement à enfouir dans le sol. Et à distance, ils récupèrent les informations sur l'état d'humidité du sol. Et donc, à distance, effectivement, ils peuvent lancer les requêtes qu'il faut pour que le dispositif puisse être activé automatiquement.
Et comment les jeunes avec qui vous collaborez ici s'informent ou créent de l'information sur ces thématiques, sur ces problématiques qu'ils veulent résoudre en Afrique, justement?
Alors, la plupart des jeunes, quand ils viennent ici, les solutions sur lesquelles ils travaillent, c'est pour répondre, en fait, à des problèmes d'abord qu'eux-mêmes ils vivent ou qu'ils ont vécu. Je pense que ça, c'est très important. Par exemple, je parlais de déchets, globalement. Les jeunes qui ont bossé là-dessus, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont remarqué qu'il y a des poubelles qui sont tout le temps remplies, mais les agents de collecte ne venaient pas le faire. Donc, ils ont tout de suite dit qu'il fallait qu'ils apportent en fait une réponse. D'où cette solution de poubelle connectée à laquelle ils ont réfléchi et qu'ils ont conçue aujourd'hui. Et la seconde chose aussi, c'est que tout ce que nous faisons comme projet, on essaie justement d'associer, d'impliquer les collectivités territoriales, les acteurs du territoire. Il y a une vraie volonté d'aller vers l'information, pas à tous les moyens. Hein. Les jeunes sont de créateurs d'informations. Parce que les projets en fait sur lesquels ils travaillent, par défaut, ils doivent structurer en fait la démarche de conception des projets. C'est le principe premier au niveau du Fab Lab.
Et est-ce qu'il y a un partage de ces informations aussi?
C'est d'abord, je pense, la philosophie première de Fab Lab, mettre l'information à disposition. Et les fichiers, les productions que nous faisons, tout est open source.
Le Blow Lab, Médard, c'est votre bébé. Pourquoi c'est un aboutissement pour vous?
Vous savez, le Blow Lab aujourd'hui, ça dépasse en fait la personne physique que je suis. Quand vous voyez en fait tout l'impact que nous avons sur le territoire, tout l'impact que nous avons en fait sur les jeunes lorsqu'ils viennent ici, ben, comme on le dit, vous pouvez mourir tranquille. J'ai vu en fait des jeunes complètement désespérés. Et aujourd'hui, ils arrivent à se positionner en entreprise. Aujourd'hui, ils arrivent à gagner leur vie. Première chose, c'est d'abord en fait montrer aux jeunes qu'il est capable. Et ça, on le fait ici sérieusement. La deuxième chose, c'est qu'on met à sa disposition les outils, le matériel et la connaissance dont il a besoin pour avancer. Et ça, gratuitement. Il faut juste qu'il soit motivé, qu'il ait de l'ambition et qu'il nous montre en fait qu'il en veut. Donc, on a un dispositif structurant qui existe et qui les accompagne dans leur démarche en fait entrepreneuriale, de manière à ce qu'un an, 18 mois ou 2 ans après, qu'ils puissent commencer par voler de leurs propres ailes. Et quand vous allez même en bas, vous avez un espace même qui est dédié aux enfants. Ils apprennent eux-mêmes en fait à développer de petits programmes, quitte à eux après de se lancer s'ils veulent dans l'ingénierie informatique ou dans autre chose. Donc globalement, c'est un espace de deuxième chance. C'est une communauté en fait d'entrepreneurs, avec justement tout un esprit de mutualisation des ressources qu'on a mis à disposition.
Et qu'est-ce que vous espérez pour la jeunesse béninoise?
D'abord, qu'elle prenne ses responsabilités. Elle se dit justement qu'elle a le pouvoir de se transformer en fait en main. Et donc, aller vers l'information. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de jeunes qui sont dans Cotonou aussi. Chaque fois qu'on se déplace, ils disent « je ne savais pas qu'un espace du genre existait ». Il ne faut pas forcément attendre que l'information vienne vers soi. Il faut apprendre aussi à aller vers l'information. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que les jeunes aussi se disent que tout dépend d'eux. Il faut d'abord se fixer des objectifs. Il faut se donner les moyens d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous essayons d'ailleurs de faire au Fab Lab. Vous savez, au début, quand on commençait au Blow Lab, on n'avait pas une seule imprimante, on n'avait pas un seul carte Arduino. C'était une opération de financement participatif qu'on a lancée pour mobiliser environ 4 500 € pour acheter nos premières imprimantes 3D, voici nos premiers kits électroniques. Donc aujourd'hui, il faut y croire. Il faut y croire et se donner les moyens pour avancer.
Est-ce que vous avez une devise?
Nous avons une devise, effectivement. C'est le learn, donc apprendre. Vous allez voir, c'est écrit, je pense, quelque part au niveau du Fab Lab. Learn, donc apprendre, donc le make, donc le faire soi-même. Et après, le share, le partage. Apprendre, faire et partager.
Et d'ailleurs, je vois une citation juste au-dessus de la porte, peinte sur le mur.
Effectivement, la citation, « Si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et que l'on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, et que j'ai une idée, et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun 2 idées. » C'est justement pour pouvoir promouvoir le partage d'idées, le partage d'informations. et se dit que justement, c'est en partageant cette information qu'on s'enrichit.
Médard Agbayazon, fondateur de Blolab à Cotonou, au Bénin, était au micro de Raphaël Constant, que je remercie. Plus d'informations sur blolab.org. On va terminer cette émission avec Mondoblog Audio, qui fait entendre chaque semaine sur RFI la voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. On va parler de musique, au pluriel, de celles qui ont le pouvoir de nous rassembler, au-delà des différences de langue, de culture, de religion, etc. La mondoblogueuse Carole Rico est passionnée de musique. Un morceau l'a saisi au cœur, un hymne au panafricanisme.
Dans chaque vie humaine, il y a de la musique. Entre une berceuse du soir et un chant de requiem, chaque étape de notre vie semble être accompagnée d'une mélodie particulière. Universelle et intemporelle, elle transcende toutes les frontières géographiques et linguistiques. Il y a la musique qu'on chante en chœur ou en bande d'occasion, celle qui se scande, celle qu'on accompagne en frappant dans ses mains, en tapant du pied, en chantant les paroles debout à tue-tête. Certaines musiques nous poursuivent, d'autres s'apprécient en silence, sans un mot. Il y a quelques mois, c'est ce qui m'est arrivé en écoutant Yoga de la vedette nigériane Asake. J'ai été saisie par son hymne d'une durée de près de 3 minutes qui intègre plusieurs éléments culturels de l'île Maurice. L'introduction est marquée par un échantillon de Mo Capitaine du ségatier Michel Legris, illustre figure de la chanson mauricienne qui s'est éteinte en 2015. Le séga, musique nationale de l'île Maurice, tire ses origines du temps de l'esclavage. La musique de yoga, chantée dans une tonalité mineure, augmente progressivement de rythme et mêle pidgin nigérian et créole mauricien. Et là, la fierté m'envahit, un sourire jusqu'aux oreilles. Cette reconnaissance artistique, non seulement continentale, mais internationale, était enfin accordée à une langue et une musique trop longtemps négligées. Ensuite, l'urgence de découvrir le clip sur YouTube s'est imposée. À nouveau, une explosion d'émotions. Filmé à Dakar, au Sénégal, on voit Asake en plein voyage spirituel ou en excursion de pêche sur des pirogues locales. Les couleurs vives des cars rapides, ces minibus Renault circulant dans les rues, les paysages chatoyants de la capitale, l'énergie unique du Sénégal ressurgit. Et les larmes coulent. Était-ce la Sénégalaise en moi ? La Mauricienne ? L'Africaine ? Je ne sais pas. Je sais juste que cette chanson a le don de rassembler, de fédérer et de célébrer l'Afrique. Que l'on soit du Nigeria, du Kenya ou des Seychelles, on ne peut y rester insensible. Le métissage des sons, des langues et des énergies fait de yoga une expérience à la fois ancestrale, contemporaine, mais surtout panafricaine. Comment expliquer une telle connexion, une telle transcendance? C'est sans doute l'héritage commun que nous, Africains, portons en nous. Une richesse infinie dont nous devons être fiers.
Mondoblog.org. C'était la jeune mondoblogueuse mauricienne Carole Rico pour un épisode de Mondoblog Audio orchestré par Séverine Perron-Ditoire. L'atelier des médias, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez écouter dès le samedi sur la plateforme de podcast de votre choix. Par exemple, Pure Radio, l'application Android et iPhone entièrement dédiée au contenu audio de RFI. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je prendrai le temps de vous répondre. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé cette émission. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.
RFI, les voix du monde.